Le personnel est politique. Vous vous souvenez de ce slogan féministe des années 60? Je le rappelle parce que c'est comme si tout le monde l'avait oublié aujourd'hui. Ce que déplorent d'ailleurs bon nombre de nos aînés qui se sont battus pour le faire accepter. Le personnel est politique, ça voulait dire en substance que l'oppression quotidienne ne relevait pas de la vie privée, qu'il fallait arrêter de séparer le public et le privé parce que tout était lié, tout était structurel, et qu'il fallait arrêter de dire changeons les mentalités plutôt que les institutions parce qu'encore une fois, tout était lié, tout était structurel, et c'est fou quand on y pense qu'on ait oublié ce slogan des années 60, les réflexions et les combats de nos aînés. C'est fou que l'on continue à ne pas voir que tout geste quotidien, toute interaction ordinaire, tout ce qu'on fait ou ce qu'on subit dans le privé ne relève pas seulement du privé. C'est presque insultant, cette amnésie. Et s'il y a une leçon à retenir, je crois, de la prise de parole de la comédienne Adèle Haenel, après tout, c'est peut-être ce rappel que ce qu'elle a subi ne relevait pas de l'acte isolé, personnel ou privé, que toute violence personnelle engage une responsabilité collective, parce que le personnel est toujours politique, et parce que dire « MeToo » ou « Moi aussi », en fin de compte, c'est dire « Nous aussi ».
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invitée d'aujourd'hui brise un certain nombre de silences. Elle aussi journaliste, elle est aussi romancière. Son 15e livre Nobel au féminin est sorti à la rentrée. Une histoire d'enfance, d'écriture, d'affirmation de soi. Bonjour Sophie Fontanelle.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Parvenir à dire moi aussi, qu'est-ce que ça implique pour vous?
Beaucoup pour moi, parce que moi aussi, ça veut dire que je me reconnais des frères et des sœurs. Et bien qu'ayant un frère que j'adore, moi je me sens tout le temps, pas moi aussi, je me sens souvent toute seule en fait. Donc arriver à dire aussi, c'est un énorme, énorme pas pour la solitaire que je suis.
Cette prise de parole d'Adèle Haenel, comment est-ce que vous l'avez vécue, vous ?
Ben, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que l'endroit où elle se mettait, quoi, et était absolument génial, et je suis pas du tout étonnée du c'est que le début, hein, du retentissement que ça va avoir, mais de l'impact que ça a eu, parce que il y a la plainte, hein, il y a qu'on a beaucoup vu et entendu, et qui est très importante aussi. On peut pas toujours dire ah là là, elles sont dans la plainte, c'est extrêmement important. Il y a la dénonciation très très agressive, il y a plein de choses, et elle, en fait, elle a, avec le silence incroyable de Christophe Rugia de l'autre côté, mais elle a ouvert la parole. C'est-à-dire qu'en fait, elle a voulu, je pense que son rêve, je pense à elle, ça aurait été qu'il parle. Mmh. Et s'il avait parlé, cette espèce de couillon, s'il avait accepté de, qui doit être pour lui aussi une énorme souffrance, hein, de ce silence, mais s'il avait accepté de parler, il aurait fait avancer quelque chose pour les femmes, c'est sûr, et pour lui aussi, pour tous les hommes.
C'est intéressant parce qu'effectivement, vous avez réagi, hein, en disant que sa parole allait sans doute permettre de libérer la parole des hommes. Qu'est-ce que ça implique, ça ?
Ben moi, je suis obsédée par ça, sur le fait que la femme, effectivement, là, elle va travailler peut-être gratuitement, enfin peut-être sûrement gratuitement parce qu'elle est moins payée. Enfin, il y a plein. Je vois bien toutes les inégalités, mais pour autant, tout le temps. Moi, je ne vois que des hommes qui auraient besoin d'être libérés. Parce qu'en fait, cette aliénation que les hommes imposent aux femmes, c'est uniquement parce que eux ont un problème. Et c'est, ils sont à libérer de l'idée que la sexualité doit être forcément quelque chose où ils dominent l'autre. Ils doivent être à libérer de l'idée même de leur érection, et que s'ils n'ont pas d'érection, ils valent rien. C'est immense en fait, la libération des hommes. Et si on arrive, et si des hommes, parce que le travail que les femmes ont fait pour elles-mêmes, les hommes doivent le faire pour eux-mêmes, si des hommes arrivent à se libérer sans se libérer, ce soit dire on n'en a rien à foutre des gonzesses, s'ils arrivent à se libérer en disant ben en fait nous on veut exprimer autre chose de nous, hein, on va commencer à avoir un homme comme Christophe Rugia qui viendra parler au lieu de se taire.
En tout cas, nombreuses ont été les personnalités qui ont exprimé leur soutien, leur admiration à Adèle Haenel. Par contre, lorsqu'il s'agit des accusations dont fait l'objet Roman Polanski, tout le monde semble très embarrassé. Sophie Fontanelle, on se tait. Ça vous inspire quoi, ça, à vous?
J'ai beaucoup réfléchi à ça, parce que je suis sur Twitter, ben, comme tout le monde, hein, le fil d'actualité. Donc je voyais des gens qui disaient ah ben il y a un silence dans le cas de Polanski et il y en a pas dans le cas d'Adèle Haenel, et donc voilà, parce qu'il a du pouvoir. Il y a certainement une part.
Adèle Haenel a du pouvoir aussi. Elle le dit d'ailleurs.
Oui, oui, mais l'homme en question, le réalisateur, il a aujourd'hui un petit peu moins de pouvoir que Polanski. Donc c'est ça petit peu qu'on dit. Moi, tout simplement, si je n'ai pas, par exemple, fait un post ou un tweet là-dessus, c'est parce que dans le cas d'Adèle Haenel, il y a l'enquête incroyable de la journaliste. C'est pas du tout pour jeter le discrédit du tout sur la parole de Valentine Monnier. C'est juste que il y a cet élément, on peut pas le nier. Il y a des gens qui parlent en leur nom, qui confirment ce qu'elle dit. Donc on peut pas comparer ça. C'est-à-dire que c'est dire je la crois. A priori, je pense c'est vachement intéressant. Qui a parlé il y a pas longtemps? J'ai entendu quelqu'un qui disait il y a la présomption d'innocence, il devrait y avoir la présomption de confiance sur la parole de la victime. Ah oui. Donc c'est vrai que c'est important aussi de la voir.
Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on a tout de suite essayé de discréditer cette parole, effectivement, de la photographe et comédienne Valentine Monnier qui accusait donc Roman Polanski, qui l'accuse encore aujourd'hui. Certains disent ne pas comprendre pourquoi elle a attendu 44 ans avant de parler. Surtout ça, c'est un argument qui revient souvent, Sophie Fontanelle, à votre avis. Pour quelle raison est-ce que certaines femmes choisissent le silence?
Alors, les femmes choisissent le silence parce qu'elles n'ont pas confiance dans ce qui va se passer si elles prennent la parole, ou elles ont parlé à un parent qui a dit « tu ferais mieux de te taire », enfin, pas méchamment. Mais surtout dans le cas de Polanski, ce qui rend le cas de Polanski très particulier, et c'est que Polanski a une nature lui-même vraiment spécifique. C'est-à-dire que c'est un homme... il a parlé avec cette jeune fille aux États-Unis pour cette histoire inaugurale, en fait, de lui en tant que violeur potentiel ou violeur avéré.
Vous faites référence à la fin Samantha Gamer.
Il a parlé, cette femme, enfin, lui n'a jamais rien dit de cette femme. Voilà, il n'a jamais rien dit de cette femme, ou très peu de choses. Mais cette femme a parlé, et cette femme, qui est depuis une enfant, bien évidemment, aujourd'hui, elle a raconté comment Polanski avait communiqué avec elle, comment il était absolument désolé, comment... C'est-à-dire, l'acte de contrition, il l'a fait avec cette femme. Ils ont eu une communication, d'une manière ou d'une autre. Donc cet homme considère que devant la société, il n'a absolument pas à se justifier. Et ces justifications, si elles arrivent, sont des justifications personnelles, sont des intimes. Il considère que c'est de l'ordre de son intimité. Après, moi, je suis pas devin pour savoir s'il a fait ou pas les choses. C'est sûr qu'au bout d'un certain nombre de gens qui viennent témoigner, ça fait comme quand même ça commence à se poser des questions. Mais il faut jamais oublier que c'est un homme qui n'est pas là dans l'agora, il vient pas là pour expliquer son cas. Jamais il ne l'a fait. Donc on ne sait pas ce qui se passe en dessous. Et c'est, je pense, dans son cas, la chose la plus intéressante, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe qu'on ne voit pas.
Quand est-ce que vous vous êtes senti capable de dire moi aussi, Sophie Fontanelle?
J'ai écrit dans L'Envie, c'était un roman qui était à ce jour mon roman qui a le plus de succès, qui a été traduit en anglais justement parce qu'il parlait de tout ça aussi. J'ai fait une allusion à quelque chose qui m'était arrivé quand j'étais adolescente. Et puis c'est vraiment, je l'ai fait tellement doucement cette allusion que personne ne l'a vu. Et puis un jour, Lorraine Bastide dans l'émission La Poudre m'a dit je voudrais t'interviewer et je voudrais que nous parlions de de cette petite phrase que tu mets dans le livre qui est « Mais que croyait-il cet homme que... Mais que croyait-elle qu'un homme qui vient du bout du monde, c'était un Mexicain, allait s'en tenir là ?» Et donc en fait, voilà, ce jour-là, j'ai dit oui à Lorraine. Le podcast de La Poudre où je raconte ce qui m'est arrivé quand j'étais adolescente sans du tout donner l'identité de cet homme que d'ailleurs je ne connais pas, mais je la connaîtrai, je ne la donnerai pas. Et ça a été le plus grand succès de La Poudre. Tout simplement parce que j'arrivais, moi, et en fait, complètement timidement, vous voyez, je l'ai fait, j'arrivais sans revendication particulière, je venais juste aider des jeunes filles à leur dire qu'attention, quand on va dans la chambre d'un garçon, quand on est adolescente et qu'on brûle de désir, il peut se passer quelque chose.
Alors cette parole que j'invite tous les auditeurs de France Inter d'ailleurs à écouter dans le podcast La Poudre de Lorraine Bastide, elle est passionnante parce que vous racontez quand même que vous avez eu envie de porter plainte contre ce garçon qui vous avait violé, mais que vos parents vous en ont dissuadé. Pourquoi ?
Parce que mes parents me disaient, ça nous ramène à Valentine Monnier, hein, et à Adèle quand elle se taisait. Mes parents m'ont dit, mais comment tu vas expliquer que t'es allée chez ce garçon ? Je n'arrive plus à me souvenir de l'âge, c'est horrible. J'ai déchiré toutes les photos de classe de l'époque.
Vous leur en avez voulu de ça ?
de pas de ça. Je leur en ai voulu. En fait, ma mère, par détresse de ne pas pouvoir m'aider, m'a souvent dit, quand j'essayais de lui en parler, elle me disait, mais c'est pas un viol. Un viol, c'est des femmes en Bosnie, qu'on tire par les cheveux. Je comprends ce qu'elle voulait dire. Mais elle m'a toujours dit qu'il fallait relativiser. Moi, on avait abusé de ma confiance. Enfin, abusé de ma confiance, tout de même, enfin, pour dire les choses clairement, en me sodomisant, hein, exactement comme c'est arrivé dans le cas de la jeune fille aux États-Unis avec Roman Polanski. Nos histoires sont très similaires. Pour autant, je n'ai jamais eu envie de dénoncer cet homme. Je fais confiance aux gens, c'est horrible, hein, peut-être que je suis une gourde. Je me dis que les gens évoluent et peut-être cet homme, soit n'en a plus souvenir, soit ça sur sa conscience.
Mon éducation m'avait préparé au consentement. Elle m'avait inculqué un sens du sacrifice qui me portait au retrait et à l'acceptation plus qu'au refus. C'est ce qu'écrivait et c'est surtout ce que nous expliquait l'historienne Michèle Perrot à ce micro. Dans quelle mesure est-ce que vous aussi, Sophie Fontanelle, comme peut-être la majorité des femmes, vous avez eu l'impression de consentir, peut-être malgré vous, d'accepter plutôt que de refuser, par éducation?
Bah écoutez, si j'étais Lacan, je dirais que vraiment consentir, c'est vraiment le bon mot, quoi. Parce que j'étais allée dans la chambre de ce garçon avec un complet consentement à quelque chose. Je ne savais pas à quoi je pouvais consentir, mais je trouvais que sa peau était douce. Il s'est déshabillé, je trouvais que c'était génial. Donc j'étais dans le consentement, voilà. Et puis ensuite, j'ai juste consenti, quoi. C'est-à-dire que quand on commence à dire, mais non, moi je peux pas, j'ai peur, je veux pas, c'est impossible, je peux pas aller plus loin. Et puis qu'en fait, bah si, on va aller plus loin, en fait, et que la porte se ferme à clé et qu'il faut aller plus loin. Pour moi, le consentement d'une femme, ce qui est compliqué peut-être pour les hommes, c'est que on a le droit, en fait, de s'arrêter à n'importe quel moment de l'étape sexuelle.
Et refuser, c'est quelque chose qui s'apprend?
Oui, parce qu'en fait, nous, on nous apprend quoi? Même adolescente et ne sachant rien à la vie, je savais que un garçon, c'est sacré son érection. Et que donc, on va pas lui foutre en l'air son érection. Donc, sinon, on est castratrice. Même moi, à cet âge-là, sans savoir tous ces mots, je savais tout ça. Je savais que c'est précieux et qu'on n'a pas le droit. C'est sacré.
Alors, à quoi, en un mot, Sophie Fontanelle, devons-nous refuser de consentir aujourd'hui?
On doit s'assurer que l'on pense qu'on va ressentir quelque chose de bien. Et si on a l'impression qu'on n'est pas tout à fait prêt, qu'on n'est pas tout à fait là, eh ben, faut pas y aller. Les hommes, vous avez quelque chose de particulier qui est que, éventuellement, si, parce que c'est pas toujours le cas, on le sait, hein, mais éventuellement, si vous commencez à moins avoir envie, ben, de toute manière, l'ustensile qui permet, ce qui permet de mener à bien son action, de toute manière, commence à être moins visible. Donc, nous, les femmes, ça se voit pas, donc il y a que notre parole. C'est pour ça que c'est si fort.
Celle qui refuse tout dans cette émission, et parfois en dépit du bon sens, peut-être que vous la connaissez, Sophie, c'est la culture et son actualité négative, contradictoire, un petit peu trop catégorique. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 14 novembre?
Chose humaine raconte une histoire à la fois simple et tragique.
Tuile au sommet, le prix Interallié 2019 a été remis hier à la romancière Karine Tuile pour son roman Les choses humaines, paru cet été aux éditions Gallimard. Ce 11e livre, inspiré de l'affaire Stanford, est un redoutable page-turner qui questionne les mécanismes du pouvoir, de l'ambition, du sexe, justement, dans notre société post-Weinstein. Côté prix, par ailleurs, on attend aujourd'hui la révélation du très convoité Goncourt des lycéens. Suspense, quand il nous tient.
C'est quoi la démocratie?
Longtemps, la démocratie a été un modèle politique à construire et un horizon nécessaire à atteindre. Est-ce toujours le cas aujourd'hui? Vaste question posée dès aujourd'hui donc par les Rencontres d'Averroès qui débutent leur 26e édition au Théâtre de la Criée à Marseille. Au programme de cette manifestation qui invite écrivains, chercheurs, philosophes et artistes à penser le monde méditerranéen, 4 tables rondes autour de la démocratie, une soirée hommage à l'écrivain algérien Kateb Yassine et un cycle junior proposé aux collégiens et lycéens à la Bien.
J'aime bien les animaux, les petits chats surtout.
Renaud Aflo, le chanteur à bandana, amorce son grand retour en révélant le clip de son nouveau titre « Les animaux », extrait de son prochain album « Les mômes et les enfants d'abord » qui sortira le 29 novembre. Illustré par Zep, la vidéo met en scène Renaud sur les bancs de l'école en face à face avec son double dessiné, jouant avec le nom des animaux et les règles de la grammaire et les fantastiques. Et enfin, retour à la case prison pour Altan, libéré le 4 novembre. Après 3 ans d'emprisonnement, l'écrivain et journaliste turc Ahmet Altan a de nouveau été arrêté et enfermé mardi à la suite d'une décision de justice soupçonnée d'être impliqué dans le putsch manqué de 2016, comme son confrère Nazlı İlsak, il qui subit le même sort que lui. D'ailleurs, il avait été condamné à 10 ans de réclusion. Aujourd'hui, Amnesty International dénonce une arrestation scandaleuse, tandis que les ONG pointent la détérioration des droits humains dans la Turquie de Recep Tayyip Erdoğan. C'est dur. Et la romancière et journaliste Sophie Fontanelle, invitée de Boomerang ce matin pour parler de féminin, de littérature aussi. Votre dernier roman s'appelle Nobel, au féminin. Et c'est un livre qui nous parle entre autres d'un amour déçu, de l'amour des mots, du désir d'écrire chez une petite fille de 10 ans. Quand est-ce que vous avez compris, vous, que vous étiez douée avec les mots ?
Oh, bah vers cet âge-là, parce que je me mettais à écrire des petites poésies qui étaient totalement ridicules, mais j'ai commencé à demander une guitare, hein, et en fait ce que je dis rarement, c'est que à 10 ans par là j'ai eu une guitare, à 14 ans j'allais chez Pathé Marconi faire des auditions, et voilà, je pensais que j'allais devenir chanteuse, donc j'écrivais des chansons, voilà. Et je savais que on vivait des choses, mais qu'il y avait quand même encore mieux, qui était d'aller les transformer en fait par des chansons.
Et qu'est-ce qui représentait les mots déjà toute petite pour vous ?
Ma sensibilité, parce que j'étais une petite fille très drôle, un peu le genre de petite fille où les gens disent oh non mais pitié elle va encore dire quelque chose. quand on va aller chez les gens on disait tu dis rien. donc j'ai commencé à écrire, comme j'étais très drôle j'ai commencé à écrire pour montrer que je voyais tout en fait, voilà, j'écrivais pour montrer que je voyais tout.
J'avais demandé l'autorisation de lire un poème, voilà pourquoi j'étais la seule debout sur une pierre tombale. Ma mère m'intima l'ordre de descendre, tandis que je faisais la sourde oreille. La vérité, c'est que, bien évidemment, je voulais être en hauteur. Je n'étais pas intimidé. Je parlais avec naturel. Je ne déclamais pas le poème. Je le lisais comme s'il me venait juste à l'esprit, comme si les arbres, les petits oiseaux, les gens présents, et le mort surtout, me le dictaient au fur et à mesure. Cela se terminait par « Chaque bois a du cœur, c'est toi qui me l'as dit ». C'est ce que vous écrivez, Sophie Fontanelle, au début du livre.
Vous lisez bien.
À la page 16. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette scène, à vous ? Qui vous émeut, j'ai l'impression ?
Ça m'est pas arrivé. Hein. C'est ce que j'aimais, c'était l'idée que justement, cette petite fille confrontée à la mort, comme on le voit au début, elle réagit avec toute son enfance et elle pense que c'est peut-être l'occasion de pouvoir faire un peu son intéressante. Et donc j'aimais bien lier l'écriture, non pas à un truc qui aussi, ça c'est lié à un truc qui vient du fond de soi, mais c'est aussi lié au fait de vouloir se la raconter, quoi.
Quand vous avez commencé à dire que vous vouliez écrire, à parler tout haut de votre vocation précoce, quelles ont été les réactions de vos proches ?
Non, les réactions étaient toujours géniales. Moi, c'est après, quand j'ai été plus tard, parce que quand vers 17, 18 ans, j'envoyais des manuscrits dans les maisons d'édition, c'est là que j'ai été confrontée j'ai vu que c'était pas si simple, mais sinon, quand j'étais adolescente, quand les gens voulaient exprimer quelque chose, parfois on venait me voir, j'étais un peu le griot de la famille, quoi. On me disait, voilà, est-ce que tu voudrais pas écrire quelque chose? Je faisais des petites lettres d'amour, des choses comme ça, quoi. Enfin, j'avais vraiment, peut-être même trop, parce que j'avais un peu la grosse tête, c'est pour ça que après, la sanction des maisons d'édition était si terrible.
Et la sanction, elle était fondée sur quoi?
Ben, je me souviens que Michel Butel, je connaissais Michel Butel, il m'avait donné le nom de Simone Gallimard, il m'avait dit de lui envoyer mon premier livre, enfin, c'était pas mon premier livre, c'était genre, peut-être le 4e, mais enfin le premier que je pouvais donner une maison d'édition. Et c'est Simone Gallimard, elle avait lu ça, puis elle m'avait répondu, je n'arrive pas à comprendre comment Michel Butel a pu penser une seule seconde que ce manuscrit allait m'intéresser. Bon, voilà. Ça a commencé comme ça, et j'ai compris que, c'était peut-être mauvais ce que j'avais écrit, mais qu'il n'y avait pas vraiment... Il n'y avait pas un côté que j'aurais adoré entendre, du genre « c'est merveilleux qu'à votre âge vous écriviez, je pense qu'il faut que vous continuiez ».
C'est intéressant que ce soit une femme qui vous ait dit ça, comme ça.
Ah bah oui, aussi. Parce que quand on dit « ça, les femmes j'ai pas du tout pensé que les femmes étaient meilleures que les hommes, hein, jamais
». Et dans quelle mesure la société d'aujourd'hui favorise-t-elle l'expression du talent chez les femmes, à votre avis ?
Peut-être on arrive à un moment où c'est même plus le talent des femmes qui peut s'exprimer que le talent des hommes. Il y a quelque chose comme ça. Et je dis enfin, et en même temps, je ne voudrais pas dire enfin, parce que moi, ce que je voudrais, c'est une symétrie de tout ça. Mais quand on voit Angèle, quand on voit Clara Luciani, quand on voit enfin Clou, quand on voit tous ces gens qui arrivent, on se dit bon, ça, ces femmes, ça a pas l'air d'être très difficile. Ça, ça
en tout surgit. Cas, qu'elles n'ont peut-être plus à s'excuser.
Oui, exactement. Mais en revanche, c'est toujours des hommes qui décident quand même majoritairement de si ça va avoir une audience publique.
Pourquoi vous écrivez, vous, en fin de compte?
Ah bon, moi, parce que je sais pas vivre. Franchement, j'arrive pas quand je veux dire quelque chose de gentil à quelqu'un que j'aime. Je sais pas comment je m'y prends, mais enfin, ça foire tout le temps. Donc, après, je fais un livre. Alors là, bon, c'est mieux quand même.
Alors, ça aide à vivre, d'écrire?
Ouais, c'est, je suis, tout ce que je sais pas dire, alors que je suis tellement bavarde, et ben il y a plein de choses que je sais pas dire, ben je le dis en écrivant. Et puis surtout la douceur, voilà, vous me faites dire quelque chose, c'est que j'ai une grande douceur au milieu de beaucoup d'humour et tout ça, et tout d'un coup le livre me permet cette douceur, et j'adore ça, quoi. Ça me fait nager dans quelque chose qui est un cocon.
On va reparler de tout ça, évidemment, juste après un peu de liberté aussi, féminine, avec Barbara. Moi, je me balance en 1970, vous êtes sur France Inter avec Sophie Fontanelle. Vous écoutez Boomerang.
Moi, je me balance, je m'offre à tous les vents, sans réticence. Moi, je me balance, je m'offre à qui je prends, le cœur indifférent. Venez, venez vite, je veux tout. Mais tout de suite, entrez dans ma danse. Moi, je me balance des graphes et des cols blancs de vos consciences. Moi, je m'en balance, mon lit est assez grand pour des milliers d'amants. Moi, je me balance au soleil de minuit de mes nuits blanches. Moi, je me balance. Chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. C'est moi qui invite. C'est moi qui vous quitte. Sortez de ma danse. Moi, je me balance parmi tous vos désirs, vos médisances. Moi, je m'en balance. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Je m'en balance, je me balance. Moi, je me balance au soleil de minuit, de mes nuits blanches. Moi, je me balance, chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. C'est moi qui invite, c'est moi qui vous quitte. Sortez de ma danse. Moi, je me balance parmi tous vos désirs, vos médisances. Moi, je m'en balance. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Car je m'en balance, je me balance, je m'en balance, je me balance.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
En fait, on est entre la Reine des Neiges et Liane s'habille en Prada, mais en gentille, hein, avec le cheveu étincelant, l'œil canaille, la dent gourmande, le sourire 14 juillet. Elle a toute la bonne copine qui se pointe, vous savez, chez vous, débeautée, à 2h du mat, et qui décide, sur un coup de tête, de vous faire traverser Paris, à deux sur une trottinette électrique, pour vous emmener déguster des coquilles Saint-Jacques, chez Michou, avec son pull gris, ce matin, et son grand collier doré, la romancière et journaliste Sophie Fontanelle, invitée de Boomerang, et avec vous, parler d'apparence, bah, c'est jamais anodin. Je pense tout de suite à l'un de vos derniers livres qui s'appelait L'Apparition. Je parlais à l'instant de la couleur de vos cheveux. En décidant d'assumer vos cheveux blancs, qu'est-ce que vous avez fait apparaître, Sophie?
Eh ben, 2 ans après la sortie du livre, je dirais que ce que j'ai fait apparaître le plus, c'est que nous vieillissons. Car je vois le regard mauvais que me lancent beaucoup de gens que je connais qui luttent, qui ne veulent absolument pas qu'on voit que le vieillissement. Et moi, en fait, quand quelqu'un me voit une photo de moi et puis parfois dit « elle fait 10 ans de plus, elle fait 20 ans de plus », etc. En fait, je fais juste mon âge et tout d'un coup, ça veut dire, c'est comme le portrait de Dorian Gray, c'est que je suis la personne maintenant qui montre, quand on fait rien en fait et qu'on se laisse, je me maquille et tout ça, c'est pas, et je me lave, mais quand on se laisse, quand on laisse ses rides apparaître, quand on laisse ses cheveux blancs vivre. Eh ben, on voit, en fait, on voit sur moi le temps qui passe. Il y a des gens, on le voit pas.
On en parlait avec l'essayiste Mona Chollet, qui vous cite régulièrement, Sophie Fontanelle. En assumant le cheveu blanc, la femme rend visible quelque chose que les autres ne veulent pas voir, en fait. Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'on a si longtemps associé les signes du vieillissement à la laideur?
Bon, d'abord, on a peur de la mort. Ça, c'est même moi, ça me le fait quand je me regarde dans la glace de temps en temps. Je me dis, j'ai l'âge où on commence à y penser. Mais dans le cas de ce que dit Mona, qui est donc, je sais que vous l'avez reçu, j'ai écouté l'émission et qui a écrit ce livre Sorcière, c'est que elle vous a parlé de la marque du diable qu'on trouvait sur les femmes, sur le crâne des femmes. Donc les sorcières, on les tondait au tribunal pour regarder s'ils n'avaient pas la marque du diable. Et cette fameuse marque du diable, qui est une tache sur le crâne, toutes les femmes qui vont avoir les cheveux blancs tôt l'ont. Car c'est l'endroit où la dépigmentation commence. Donc le lien entre la sorcellerie et les cheveux blancs est évident. Et après, il est évident aussi parce que, comme elle le dit très bien, quand les femmes ont les cheveux blancs, souvent elles sont plus âgées, elles osent dire plus de choses, elles sont plus libres,
plus sages.
Oui, elles sont plus sages. Je plaide pour la douceur, comme je viens de vous le dire, et je pense que les hommes qui ont tant envie de fraîcheur et de jeunesse, c'est pas du tout pour dire qu'il faut tous qu'ils viennent dans mon lit, surtout pas. Mais un seul suffirait, quoi. Mais en fait, une femme qui est sage, c'est aussi très important. C'est aussi très important parce que ça n'est pas méchant. Ça va pas vous juger, contrairement à ce qu'ils pensent.
Qu'est-ce que vous trouvez beau chez une femme, vous ?
Moi, ce que je trouve beau chez une femme, c'est que c'est honnête. Et ça n'est pas honnête avec tout le monde. C'est-à-dire qu'une femme, elle peut simuler beaucoup plus facilement qu'un homme, comme on le sait. Mais quand une femme vous aime, elle est honnête. C'est-à-dire que même si, à des moments, mettons, je ne sais pas, pour parler de sexualité, elle prend pas de plaisir, elle va trouver un moyen de vous le dire de manière extrêmement douce et gentille, qui va vous valoriser, en fait. Et elle, voilà, j'aime ça.
Vous vous trouvez belle, vous ?
Je me suis pas, pire que pas me trouver belle, j'ai l'impression que j'existais même pas, quoi, tellement je ne ressemblais pas au canon de beauté. Et maintenant, de temps en temps, si je mets le téléphone devant mon visage et que je fais un selfie, ce que je fais tous les jours sur Instagram, je me dis, je sais pas si je me trouve belle, je me dis, t'as de l'allure. Puis finalement, c'est le plus important.
C'est un texte savoureux que vous nous avez écrit ce matin. Un texte tiré d'un futur recueil inspiré des fables de La Fontaine qui devrait s'appeler Les fables de La Fontanelle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Sophie ?
Ça va sortir en mai. Et en fait, j'ai déjeuné à l'automne avec Jérôme Garcin, que je voyais pour la première fois, en fait, avec qui je travaille à l'Obs. Je suis journaliste à l'Obs. Et puis, il me demande si j'écris. Je lui dis, je fais des fables, les fables de La Fontanelle. Il me dit, tu veux pas me montrer une ? Et il l'a lu. Et il était plié en deux, quoi. Et il m'a dit, tu retournes à ta maison d'édition et tu dis que tu veux sortir ces fables. Mais je lui ai dit, mais c'est parce que c'est moins littéraire, etc. J'étais là tout en train de me débattre. Et puis il m'a dit, écoute, ce que c'est, je vais te dire, c'est que c'est savoureux. Donc vas-y. Donc il m'a donné des ailes. C'est très important parce que c'est très important que des gens comme lui vous donnent des ailes, en fait. Parce que ça, c'est quelqu'un de qui on voit passer des livres.
Alors c'est une fable inédite que vous nous livrez.
Oui, je vous lis quelque chose que personne vraiment n'a lu. Donc ça s'appelle Le feu et la flamme. Ce que l'on prend pour un atout peut nous faire perdre à peu près tout. Dans ce lycée à la récré, le clan des filles très souvent se regroupait sous un auvent. Leur temps libre était consacré à parler de choses intimes. Vous saviez que le but ultime, c'était ce qu'on appelle une pipe ? Toutes s'écriaient en principe « Oh ben bien sûr que l'on est au courant !» Et toutes l'étaient sûrement, déjà, à force d'en parler. Il en fallait des facultés pour faire la joie d'un garçon. C'est là que l'une des élèves, une sorte de surdouée, voulut encore se démarquer. Un avenir va se jouer sur cette salive embarquée. Des pipes, faut que je devienne un génie total, une reine. Ces mots coururent dans sa tête comme le feu sur l'allumette. Pour s'instruire autant que possible, elle chercha un peu la Bible des pipes. Et la trouva. nous grappilla quelques astuces. Ne pas mordre ce que l'on suce, ne pas s'étouffer en effet, mettre son poing comme un coussin, ne pas oublier les oursins et faire comme si. On faisait un festin, mais si. Devint la reine, cela au moins marcha comme cela devait. Nous voici des années plus tard, à une soirée d'anniversaire, au milieu de tous les fêtards, il y a un homme solaire. Ça rend timide de se plaire, elle pense... Si j'attends qu'il ose, on va jamais se satisfaire. Alors elle essaie quelque chose. Et si nous repartions ensemble ? Il répond, comme bon te semble. Désormais, les deux sont chez lui, s'installent dans le canapé. Il dit, tiens, tu lis Aragon. Elle pense à son pantalon. Puis soudain, il voit Baudelaire. Oh, c'est celui que je préfère. Et pendant qu'il ouvre un poème, elle se rue sur sa braguette comme le chien sur la chaussette. Le garçon est les bras en l'air, avec à la main Baudelaire, et se révèle embarrassé de se voir ainsi embrassé. La fille sur le champ se glace. « Dis-le que je ne te plais pas. Beaucoup d'hommes ne diraient pas non à ce que je leur fasse une douceur. Une douceur ? Oui, dit la fille avec noirceur, et toise l'œil rancunier, le pauvre poète nié. Dommage qu'en chien de faïence, ces deux-là mesurent l'ambiance. L'amour les avait réunis, ils se séparent mauvais amis. La morale est courte et complète. Une pipe, c'est très près de la tête.
» Sophie Fontanelle, incroyable quand même. Merci Sophie pour ce cadeau. C'est un beau cadeau, ça vous...
Comme quoi d'être solitaire, ça donne de l'imagination.
Merci d'être venu faire un tour dans cette émission.
Merci.
Je rappelle
vous.
Que Nobel, votre dernier roman, mais aussi L'Apparition ou encore L'Envie, sont publiés aux éditions Robert Laffont, comme j'invite les auditeurs de France Inter à les lire. Merci pour votre parole aussi. Ce matin, tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Merci à vous.
Life like, this is what your life like. Try to live the life right. People really know you push your buttons like type right. This is like a movie, but it's really very lifelike. Every single night, right? Every single fight, right? I was looking at the gram and I don't even like lights. I was screaming at my daddy, told me it ain't Christ-like. I was screaming at the referee, just like Mike. Looking for a bright light. Seagull, what your life like? Riding on a white bike, feeling like a sight fight. Pressing on the gas, supernova for a night light. Screaming at my dad and he told me it ain't Christ-like. But nobody never tell you when you're being like Christ. Only ever seeing me, only when they need me. Like if Tyler Perry made a movie for BT. Searching for a deity, now you wanna see it free. Now you wanna see if we let you see it three apiece. Tell me what your life like, turn it down a bright light. Driving with my dad and he told me it ain't Christ-like. I'm just trying to find, I've been looking for a new way. I'm just really trying not to really do the fool way. I don't have a cool way, being on my best though. Lock up on the text though, nothing else next though. Not another word, let a picture or a decimal. Wrestling with God, I don't really wanna rest so. Man, it's really life-like, everything in my life. Arguing with my dad and he said it ain't Christ-like. Man. You know it's like, somebody only close to could get you like off your... I be on my... I woke up this morning, I said my prayers, I'm all doing good. I try to talk to my dad, get him some advice. He starts spazzing on me, I start spazzing back. He said, they ain't Christ-like. I said, ah!
Follow God, Kanye West sur France Inter.